Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir. Je suis Claire Latsag et je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de récréation sonore.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ce soir, je vous propose de découvrir l'autrice québécoise Jenny Cartwright avec deux de ses pièces sonores, Création de richesse, Labor of Love et Bienvenue aux dames. Bonsoir Jenny.
Bonsoir Claire.
Ben, merci beaucoup d'avoir accepté d'essuyer les plâtres avec moi ce soir. Pourrais-tu te présenter aux auditeuristes de Récréation Sonore?
Oui, absolument. Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie. Moi, je suis documentariste. J'ai une formation en cinéma. Je ne me destinais pas du tout ni à la réalisation ni au son. Je pensais que j'allais devenir directrice photo. Et en finissant l'université, je suis allée travailler dans une école de cinéma où j'ai touché à divers postes. De fil en aiguille, et un peu par hasard, je suis arrivée à la réalisation. J'y suis arrivée quand même tard. Et depuis, je réalise des œuvres avec différents médiums, là, autant l'installation que la projection monumentale, que des films et des créations sonores.
Et on peut peut-être aussi dire que tu es co-programmatrice de la plage Écoute de Think Canada.
Exactement, oui.
Et que tu es aussi dans les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
Oui, effectivement. Il y avait peu de place pour la création sonore jusqu'à tout récemment au Québec. J'ai poussé un peu par là.
Alors, on va d'abord écouter Création de richesse, Labor of Love. Et nous nous retrouvons donc après pour en parler ensemble. Et nous terminerons l'émission par une de tes pièces d'un format court. Bienvenue aux dames. À tout à l'heure.
Cette création sonore est pensée pour une écoute au casque ou avec des écouteurs. C'est encore mieux les yeux fermés. Bonne écoute!
J'avais deux milieux dans lesquels j'évoluais, c'est-à-dire celui du squat d'artistes dans lequel j'avais mon atelier, puis avec d'autres artistes avec qui on faisait plein de projets. Et puis l'autre côté, ben, le côté un peu plus branché des galeries. Il n'y a pas de centre d'artistes comme on les connaît ici à Montréal. Là-bas, c'est directement des institutions ou alors des galeries privées. C'est déjà très, très différent. Donc, il y a un côté très branché, un milieu très branché. C'est, t'es-tu un artiste qui roule et tu es un artiste qui réussit? Par contre, il y a le même besoin, le même souci de faire rayonner une image de soi en tant qu'artiste qui roule ou qui est super occupée ou qui a plein de projets. Ça va, comment tu vas? Oh, ouais, ça va, ouais, j'ai plein de trucs en ce moment, c'est cool, j'ai plein de projets. Ah ouais, bah c'est cool, ouais, super, puis ouais.
Pour que ça marche, il faut assurer le temps, le répartir sur plusieurs années, voir sa pratique dans la durée.
Puis j'ai pas d'expo, Fab, c'est chiant, c'est long. Envoyer ses dossiers.
J'ai plus de temps à perdre. Tu parles de prendre le temps. Mais je pense aussi que c'est culturel de prendre le temps. Au 31 mars, il faut que ton projet soit fini. Rien que le temps que tu pognes la confiance du monde, c'est déjà le 31 mars.
dans mon atelier, je bloque, je sais pas, j'arrive pas à décrocher d'une idée, puis Lydie, elle donne rien. La peur ou l'angoisse d'apparaître comme quelqu'un qui échoue ou qui n'a pas assez de projets, l'idée de l'échec, elle n'est pas tout pareille.
C'est pas une période de ressourcement, de régénérescence. C'est un trou. Je pense qu'un cancer, ça serait mieux vu.
Je me suis sentie rejetée parce que je pensais être ma famille artistique. Ça a été tellement tough. Juste penser à ouvrir Instagram, ça me donnait mal au cœur.
Ça faisait 4 ans que je travaillais sur ce projet-là. J'avais pas envie que le soir du vernissage, tout le monde me parle de ma grossesse.
Le trou.
Les trous dans les CV.
Le trou dans le CV.
Le trou dans le CV.
That hole in your resume.
Ben, ça a été une claque en pleine face, la maternité. Dans le milieu de l'art, c'était mal vu. C'était pas professionnel. T'es vite éjecté.
BAMF wasn't against it, but there was nothing there to help. It was going to cost an extra $3,000 to do it as a family with no support. So I went to BAMF, and my partner stayed in Manitoba with my daughter. There were 3 other women there who also had children at home, each of them with a PhD or a master's. And this teacher lectured us on what it is to be a real artist, as if we were a bunch of dropouts or high school kids who hadn't figured it out yet. All the while, his wife, also an artist, was home taking care of his children.
J'ai fait ma maîtrise à Halifax quand mon fils avait 2 ans. J'ai déplacé ma famille. Je suis revenue avec un burn-out.
c'est tout l'économique qui est problématique. Parce que toutes les valeurs, même sociales, même amoureuses, elles sont basées sur l'économique, sur le système économique dans lequel on est. Non, j'ai besoin d'un plus grand atelier, j'ai besoin d'argent parce que j'ai besoin d'acheter certains matériaux. Je n'ai pas non plus les conditions financières pour aller jusqu'au bout. Je n'ai pas les conditions de l'espace, temps et physique aussi. Là, je m'apprête à commencer un nouveau travail qui va quand même impliquer 24 heures semaine. Donc, si j'avais comme 3 mois de résidence, je pourrais, mais j'ai un enfant.
Faire de l'or, c'est vraiment un luxe. Mais c'est aussi une nécessité.
I lost my job to the person who replaced me on my maternity leave. That was the beginning of 2 years of unemployment.
Ça a été tellement difficile ma recherche d'emploi, j'en suis venue à regretter d'avoir des enfants. Ça m'a vraiment fait mal.
Je le berçais avec mon pied en parlant avec un client. Je les emmenais dans les AGA.
Je l'amenais à l'atelier.
I thought I was a superwoman.
I had a performance project when he was 2 weeks old.
On avait fait un pacte de non-agression. Mais un jour, le ballon a traversé le couloir.
The art world positions itself as alternative, but it's totally not.
In fact, it's like the strongest survive. The stereotype of the starving artist exists for a reason.
Pousser la balançoire. Je me souviens des grands moments d'ennui.
pourquoi la recherche se ferait toujours dans les universités. Pourquoi il faut habiter avec nos chums?
It's a moment in life where time becomes extremely fragmented.
C'est vrai que ça ralentit. Je suis dans la décroissance totalement.
Art is calling me. Come back. Come back.
Pour que ça marche, je me mets dans un état d'ultra-performance. Ça nourrit ma pratique.
Ça nourrit, mais ça vide en même temps. Je suis pas rentable passé 9h. 9h, c'est le nouveau minuit, je trouve.
On y arrive quand on est hyper discipliné. Chose que je ne suis pas. C'est difficile de discipliner son temps d'artiste. C'est triste. C'est triste pour moi, mais c'est vrai. Mais c'est ça. C'est mon temps d'artiste que j'essaie de caler quelque part dans le temps qui reste. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas mon travail alimentaire que je vais essayer de caser entre la mère que je suis et l'artiste que je suis.
C'était tellement dur de finir ma maîtrise, ça m'a écœurée. J'ai même pas distribué mon film.
You end up accepting a kind of precariousness to your life to do what you need to do.
Des fois, j'aimerais tellement ça, juste crisser mon camp.
J'étais monoparentale. Ça m'a pris 18 ans à faire mon bac. Cette pression-là, de faire tourner la roue.
De faire une expo chaque année. C'est quoi la réussite?
C'est un milieu qui devrait être à l'écoute de l'humain, mais ça ne l'est pas. C'est un système de production.
Les galeries d'art, les collectionneurs, les musées, c'est un monde avec lequel j'ai rien à voir. Pas plus qu'avec l'équipe de hockey de mon fils, hein. Mais bon, c'est un monde hiérarchique auquel tu aspires pour des raisons bizarres. Pour des raisons économiques, finalement.
Il n'y a absolument rien d'innovateur dans la façon dont le milieu des arts fonctionne. Ça reflète parfaitement ce qui se passe dans la société. C'est la même expérience à être mère artiste que n'importe quelle autre mère.
Lui, ça ne l'a jamais empêché d'aller à l'atelier, d'avancer dans ses projets.
Mon premier recueil, je l'ai écrit dans ma tête, en montant et en descendant la côte des plateaux. Ça me prenait une heure et demie à aller porter mes enfants, se faire garder pour que j'écrive. C'était précieux.
J'ai toujours été féministe. Comment j'ai fait pour me laisser avaler comme ça?
Il faut être privilégié pour réussir.
Comme immigrante, t'es obligée de penser à ta survie. Ce qui permet de t'émanciper, là, tu mets ça de côté.
J'ai la réflexion que je suis une artiste émergente à la quarantaine. Et si j'avais des cheveux blancs, ça ne pourrait pas marcher. Je pense que si j'étais dans un autre domaine, je n'aurais pas ces réflexions-là. L'idée de l'artiste authentique est vraiment limitée. Le fait que je sois mère, que je sois immigrante, mon âge, je ne parle pas de ça. Et je vis très bien ça. C'est une protection. Ce qui me manquait tellement du Mexique, c'était la femme de ménage, à cause du lien émotionnel. Quelqu'un qui va sentir satisfaction de toutes mes réussites. Et qui, grâce à elle, je pouvais développer ma carrière et me développer économiquement. En arrivant ici, la différence était très marquée, parce que je n'avais pas les moyens de faire de l'argent.
Quand j'ai eu mon garçon, là, j'avais vraiment plus de temps à perdre. J'ai pris des cours du soir pendant que j'allaitais. Ça m'a pris un an et demi. J'ai réussi à bâtir mon portfolio. Je suis rentrée à Concordia. J'étudiais à temps plein. J'avais pas le droit aux bourses. Fait que pendant 3 ans, j'avais aucun revenu. Pour la première fois, je m'identifiais comme mère dans un contexte artistique. Ouais, c'était tough d'étudier avec des jeunes de 22 ans qui n'avaient pas toute la même mentalité puis pas du tout le même vécu non plus. Il y avait beaucoup de femmes profs qui étaient mères. Ça m'a beaucoup aidée.
C'est quelque chose, hein, vieillir comme artiste?
Je ne pense pas que, avec le choix de profession que j'ai fait, de travail en tant que travailleuse culturelle et artiste, j'aurai une retraite. Puis je ne sais même pas c'est quoi la retraite ici au Québec quand on n'a jamais cotisé dans un système social. J'ai aucune idée. Mais apparemment, j'aurai 2 $ par jour aujourd'hui, là. Alors, ma pratique, elle est, on va dire, protéiforme. J'ai en ce moment un projet qui est basé sur le portrait versus le selfie. Donc, et en fait aussi, c'est ça, les différentes couches de représentation à travers l'histoire de l'art aussi du portrait. Je travaille aussi en parallèle beaucoup avec le texte, la parole, puis la performance. Puis avec la performance, ben je travaille beaucoup les notions de territoire. De territoire, de zone aussi, de l'espace privé à l'espace public. En sachant que dès qu'on a la rencontre de 2 corps, ça génère du politique.
It's so much easier to be a shocking person as a mother. You can feel the consequences of not conforming. You can feel the hostility. You can make work about death, sex, so many aspects of life, but making art about birth carries such a stigma.
Création de richesse, labor of love. Une création sonore de Jenny Cartwright, David Cherniak et Emmanuel Jacques.
Oh, je m'en souviens.
d'après une œuvre originale d'Emmanuel Jacques.
D'après une œuvre originale d'Emmanuel Jacques. Avec les voix de Claudia Bernal, Marie-Lou Kraft, Vanessa Landry, Michel Lacombe.
Lacombe.
Michel Lacombe. Annick Martel, Elkana Talbi, Janet Torge, Sonia Zlata Nova. Conception sonore additionnelle et mix, David Cherniak.
Thierry Gauthier.
Thierry Gauthier. Merci à tous celles et ceux qui ont collaboré à ce projet. Catherine Abomrad, Léa Audet, Anne B, Judith Bellavance, Manel Benchaban, Amber Person, Anne-Laure Bigser, Marie-Pierre Boquet, Caroline Boileau, Andréane Bouchard, Sandrine Briand-Millette. C'est quoi encore?
Guillaume. Brisson-Darvaux.
Guillaume Brisson-Darvaux. Blanca Cassa Broulette, Marie-Pierre Chazelle, Emmanuel Choquette,
Natacha,
Clitendre, Annie Consicao Rivet, Camille Couton, Laetitia Deconinck, Julie Delporte, Christine Dufour, Andréane Dupuis-Bourret, Camille Gagnon, Marie-André Gail, Joanne Giroux, Céline Widebert, Janie Julien Faure, Josiane Lemieux, Véronique Lévesque-Pelletier, Caroline Loncol-Degno, Hélène Mort, Geneviève Massé, Flavia Magilis, Anadine McIntyre, Shelley Miller, Lavania Narassia, Catherine Oslo, Antoine Payassard, Émeline Pornios, Sabine Arac, Caroline Reeves, Nicolas Rivard, Catherine Rondeau, Grace C.B. Byrne, Florencia Sosa-Reig, Caroline Saint-Laurent, Anne-C. Thibault, Geneviève Turcotte, Patty Van Roche, Stéphanie Verrier, Kim Waldron, Erin Williams, Lissette Yossa Levitz, Suzanne Pinkson, Victor Pinkson. Nous remercions les Ors du Canada, le Conseil de l'Or. Nous remercions les Ors du Canada. Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de son soutien.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Alors Jenny, peux-tu nous dire d'où est née l'idée de cette création sonore sur la place des femmes artistes dans le monde de l'art?
Ben, à l'origine, c'est un livre d'artiste qui a été réalisé par une artiste qui s'appelle Emmanuelle Jacques, qui est aussi une amie. Et pour réaliser son livre d'artiste, elle a rencontré une quarantaine de femmes qui étaient à la fois mères et artistes. Et elle faisait leur portrait. Pendant le portrait, elle menait des discussions qui parlaient autant d'échanges économiques, de relations au pouvoir, de création artistique, de patriarcat, de charge mentale, de maternité, etc. Et donc, elle faisait leur portrait. Et le livre d'artiste qui a vu le jour à la suite de ces entretiens-là, c'est une liasse de billets de banque, des très beaux billets de banque. Donc, ça, c'est le livre. Et l'idée nous est venue dans un des premiers confinements au début de la pandémie où on parlait de cette œuvre-là. Puis c'est une époque où le Conseil des arts du Canada avait mis sur pied un programme de micro-bourse pour les artistes en déroute qui avaient perdu toutes leurs sources de financement. Donc, c'est comme ça que c'est né.
Et donc, d'après toi, qu'est-ce que la dimension sonore a permis d'apporter à l'œuvre d'Emmanuel Jacques?
Je pense que ça a apporté vraiment beaucoup de choses. D'abord, ça nous a permis de rejoindre un public qui est à l'extérieur des galeries d'art. Ça nous a permis une certaine continuité dans l'approche d'Emma parce qu'elle elle définit son art comme de l'art relationnel. Puis la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on a fait choisir aux femmes comédiennes quelles phrases elles avaient envie de dire. Donc ça, ça a mené à beaucoup de discussions qui, moi, m'ont fait beaucoup réfléchir à la maternité. Moi, j'ai pas d'enfant et En faisant ça, en faisant toutes ces discussions-là, j'ai vraiment réalisé que la maternité, c'était un angle mort de mon féminisme et que j'étais pas la seule. C'est quelque chose qui est assez tabou dans l'art, plus qu'on pense. C'est quelque chose qui est vraiment pas beaucoup abordé ou, en tout cas, dans les études féministes, je l'ai pas vu beaucoup. Et après, ben, le travail sonore, ça nous a permis d'aller vers quelque chose de plus expérimental que ce qu'on faisait avant. Et là, je l'ai dit au nous parce que Création de richesse, on l'a signé à trois. Il y a David Cherniak, Emmanuel Jacques et moi qui signons la réalisation. Je pense que c'était la première fois qu'on travaillait avec des micro-contacts, qu'on a mis dans les presses qui avaient servi à enregistrer le livre. On a travaillé avec des hydrophones DIY. On a pris nos vieux micros, on a mis des condoms, on les a mis dans le bain. Je pense aussi que ça a servi peut-être à matérialiser le travail d'artiste d'Emma, dans le sens où on s'est vraiment servi des objets qui lui ont servi à faire le livre pour faire la conception sonore. Donc, autant un spirographe, un numériseur, la presse typographique, la guillotine à papier. Donc, ça a permis peut-être de rendre matériel le travail de l'artiste. On a aussi beaucoup travaillé sur la notion du temps, soit en étirant ou en accélérant des sons. Puis ça, c'était parce que ça, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. Là, les mères avaient toujours l'air de vouloir plus de temps. Et ça faisait aussi référence au temps long de l'œuvre d'art parce que faire un livre d'artiste, ça prend du temps. Et finalement, ça nous a permis aussi, les génériques ont été faits par les enfants d'Emmanuel. Puis je trouvais que c'était une belle représentation de la maternité au moment où on l'a fait, ni Suzanne ni Victor savaient lire. Donc, il fallait que Emma leur dise le générique pour qu'ils le répètent. Puis moi, je trouvais que ça illustrait bien le travail des parents, peut-être.
Mm-hmm. Alors, Création de richesse, Labor of Love, est une pièce qui a été finaliste dans la catégorie fiction et expérimentale du prix Numix 2022, un prix qui récompense les contenus numériques au Québec et que tu as d'ailleurs remporté en 2019 pour, je crois, ton premier documentaire sonore qui s'intitulait « Debout ». Tu veux peut-être nous en dire quelques mots?
Oui, absolument. Debout, c'est un documentaire sonore dans lequel je racontais le fait que jusqu'en 1971, les femmes ne pouvaient pas faire partie d'un jury au Québec. Et à une époque où il y avait encore la peine de mort, donc ça signifiait clairement qu'il n'y avait que des hommes dans un jury qui avaient le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et j'ai raconté le coup d'éclat qui a fait en sorte que cette loi a changé quand des militantes féministes ont pris d'assaut un procès célèbre et où elles sont allées s'asseoir dans le box des jurés. Donc, dans le documentaire, je raconte à la fois la naissance du Front de libération des femmes du Québec et cette action choc qui fait que les femmes peuvent maintenant siéger sur des jurys.
Et donc, tu disais que tu travaillais aussi dans le cinéma documentaire. Pourquoi est-ce que tu as choisi le son?
Le son est arrivé aussi comme un accident dans ma pratique parce que quand j'ai fait Debout, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire par le film. J'avais fait que des films et non seulement j'avais fait que des films à cette époque-là, le son, c'était vraiment le mal-aimé de mes productions où c'est quelque chose qui m'intimidait un peu, que je ne touchais pas beaucoup. Dès que j'avais fini le montage, je donnais à quelqu'un d'autre pour faire la conception sonore. Puis, je suis arrivée à l'histoire de Debout qui se passe de 1969 à 71. Puis il n'y avait aucune archive, il n'y avait pas d'image, il y avait quelques coupures de journaux, mais très peu. Puis j'ai réalisé que au mieux, ça allait être vraiment ennuyant si je faisais les deux entrevues des deux militantes qui me racontent l'histoire, puis qu'elles sont chacune dans leur salon, puis qu'on passe de l'une à l'autre. Puis, à ce moment-là, j'ai aussi réalisé à quel point le son avait un pouvoir évocateur très fort qui me permettait de recréer l'ambiance, qui me permettait de recréer la crise d'octobre, qui est peut-être, si je fais un raccourci, l'équivalent de votre mai 68. Puis, je trouvais aussi que le documentaire sonore peut être un médium féministe parce que les femmes sont tout le temps ramenées à leur apparence et qu'on a encore beaucoup de mal à prendre notre place dans l'espace public où on se fait encore beaucoup couper la parole. Donc, je le prends un peu comme un pied de nez où je dis là, vous ne nous verrez pas, mais vous allez nous écouter. Et je trouvais que ça cadrait vraiment bien avec Création de richesse, en fait.
Donc, on peut dire que tu réalises vraiment un travail de mémoire sur ces actions féministes qui parfois étaient oubliées. et qui ont fait avancer les droits des femmes. Donc, c'est le cas de la seconde pièce que nous allons écouter, Bienvenue aux Dames. Est-ce que tu veux la présenter aux auditeurices?
C'est Bienvenue aux Dames, c'est l'histoire de la lutte qui a été menée par des militantes féministes, toujours les mêmes qui gravitaient autour du Front de libération des femmes, pour que les tavernes, qui sont peut-être l'équivalent des PMU français, ne soient plus réservées aux hommes, ce qu'elles étaient jusqu'en 1986. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que ce documentaire-là que j'ai co-réalisé avec David Chernyak, celui-là, on avait envie de le faire rapidement. On n'avait pas envie de faire des demandes de bourse. On n'avait pas envie d'attendre 6 mois, d'avoir des réponses, de relancer, de je ne sais pas quoi. Donc, on a décidé de le faire à très petit budget, nous deux. Voilà, de le faire de manière vraiment indépendante et DIY. Sauf que le problème qui se posait, c'est qu'on ne pouvait pas se payer les archives parce que les frais d'archives sont extrêmement élevés. On parle de, je pense, une vingtaine de dollars par seconde. Donc, si on avait payé ce qui est dans le documentaire, il y en avait pour plusieurs milliers de dollars. Je me rappelle avoir calculé peut-être 3 000 ou 4 000 dollars qu'on n'avait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les bulletins de nouvelles de l'époque et on les a fait rejouer par des comédiens et comédiennes. On a refait l'occupation de la taverne dans ma cuisine avec des bières et des tables et des chaises qu'on bougeait. Et puis, c'est comme ça qu'on a un peu contourné le manque d'argent, quoi.
Très bien. Eh bien, on va donc laisser les auditrices découvrir Bienvenue aux Dames. Merci beaucoup, Jenny.
Merci à toi.
Et je rappelle qu'on peut donc écouter toutes tes pièces sur ton SoundCloud.
Effectivement.
Ça, c'est votre nom de jeune fille ou le nom de votre mari?
C'est mon nom.
Et puis le nom de votre mari?
Je suis pas mariée, monsieur. Je viens de finir l'université.
Bien, on dirait que vous avez pas appris grand-chose, mademoiselle. Votre date de naissance?
16 mai 1948.
Cheveux bruns. Yeux bruns. Vous faites quelle taille, madame?
5 pieds 6.
Ben, vous allez suivre le sergent Bédard, puis vous allez attendre sur le banc là-bas, le temps qu'on décide de ce qu'on va faire avec vous autres. Ça fait 4 fois, ce mois-ci. La patience a toujours payé ses limites.
On savait qu'on contrevenait à une loi et puis qu'on serait probablement arrêté. On était sûr de ça, là. On pensait même qu'on allait être arrêté quand on a fait l'action au salon de la femme.
Martine Éloi, militante féministe.
Donc, oui, on était sûr qu'on allait être arrêté, mais on y allait. Il fallait le faire pour changer les choses puis dénoncer l'inacceptable. Pas que la bière est si importante dans la vie, mais c'est plutôt le fait de porter une discrimination contre des personnes sur la base de leur sexe qui ne passait pas.
1971-1986. La fin de la ségrégation dans les tavernes québécoises. Bienvenue aux Dames.
Le réacteur de la centrale de Tchernobyl serait aussi en train de fondre.
Le gouvernement de Robert Bourassa a annoncé que le salaire minimum passera à
4,30 $. 1986.
15 ans après le changement de la loi qui a mené à la création des brasseries, Québec rend finalement sa législation conforme à la Charte des droits et libertés et déclare discriminatoire le fait d'interdire l'accès des tavernes aux femmes.
Des femmes de Longueuil sont venues nous voir pour qu'on organise quelque chose avec elles. On n'était pas sûr que c'était ça qui était principal parce que, bon, c'est pas l'oppression économique, c'est pas lié au travail ménager. En tout cas, il y a eu toutes sortes de discussions. Finalement, on a décidé d'y aller et puis on s'est joint donc à certaines femmes de Longueuil pour occuper une taverne. Quand je parle des luttes féministes de l'époque, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut comprendre d'où on partait. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a derrière cette espèce d'éveil, c'est le fait qu'on a été à peu près la première génération à avoir accès à l'université. Il y a toutes sortes de choses qui étaient vraiment assez difficiles. Tu pouvais commencer une phrase 5-6 fois avant que quelqu'un reconnaisse que tu étais en train d'essayer de parler parce qu'ils écoutaient juste les hommes, tu sais. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'oppression des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'oppression des femmes, ce n'était pas quelque chose de reconnu. Ça n'existait pas. C'était ton problème à toi ou à toi et ton chum, mais c'était pas un problème social. Ça a été une lutte en soi d'accepter, de nommer le fait qu'il y avait une discrimination systémique contre les femmes.
Thatcher devient donc la quatrième femme à occuper le poste de premier ministre dans
le... à l'admission des Nordiques dans la Ligue nationale. Quant à les...
Montreal last Saturday to demand free and available contraception.
1979.
La Taverne du coin, une institution bien québécoise, ne disparaîtra pas, mais en vertu du projet de loi 55, toute nouvelle taverne devra permettre l'accès aux femmes et devra en conséquence posséder les installations sanitaires nécessaires. Par contre, les tavernes déjà existantes auront le choix de continuer à exclure la gent féminine ou de l'admettre. Un avis de la Commission des droits de la personne recommandait plutôt que toute taverne soit dorénavant ouverte aux femmes. Le projet maintient également l'interdiction de vendre de l'alcool le vendredi saint.
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, si tu voulais une bouteille de vin, il fallait que tu rentres dans une régie et que tu demandes la bouteille de vin et il y a quelqu'un qui allait les chercher sur les tablettes en arrière, te donnait la bouteille de vin par-dessus le comptoir et tu la sortais en la cachant. Puis les tavernes, c'était vraiment une institution au Québec. C'était une institution où les hommes se retrouvaient, c'était jugé comme important pour eux comme lieu. Mais bon... Mais...
On a annoncé l'abolition des tavernes réservées aux hommes. Êtes-vous en faveur de ça?
Me dire franchement la pire vérité. S'il y a une femme qui rentre ici, bon, ben la table de poule, elle s'en va. J'aime bien mieux avoir la table de poule qu'une femme. Parce qu'une femme, j'en ai une à la maison. Je n'ai pas besoin ici.
1978.
D'ici 3 ans, les tavernes pourraient être interdites. En tout cas, c'est ce que recommande un groupe de travail dans un rapport qui a été remis au ministre de la Justice. Voici à ce sujet notre reporter Tom Racine.
La recommandation de la commission de contrôle des permis des alcools s'appuie sur un fait, c'est que les tavernes sont des endroits publics où on y pratique une certaine forme de ségrégation, parce que les femmes n'y sont pas admises.
1971.
Je ne me rappelle pas du chiffre exact de combien on était, mais je sais qu'on était une petite gang, là. C'est ça, autour d'une dizaine, je dirais. Et puis, donc, on avait prévenu les médias. Puis, ce qui est curieux quand on relit des articles sur cette époque-là, c'est qu'on nous traitait de jeunes filles. C'est vrai qu'on était dans la vingtaine, mais il y avait un paternalisme certain dans la réaction.
Eh bien, la femme des tavernes est née. Son intrusion d'hier soir à la taverne Tremblay a reçu le plus chaleureux des accueils et les drafts ont été servis à la dizaine de demoiselles par les clients eux-mêmes. Plusieurs n'en revenaient pas de voir autant de séduisantes contestataires venues pour une quatrième fois se prononcer contre l'interdiction de servir de la bière en fût aux représentants d'un sexe faible qui se fortifie.
Alors, on est rentré dans la taverne, on s'est assis à une table, puis on a commandé une bière. Là, il y a des serveurs qui sont approchés, puis qui ont dit, ben, vous n'avez pas le droit d'être ici.
Non, non, non. Moi, je veux pas d'histoire. On ne vend pas de bière aux femmes.
On a insisté qu'on était là, qu'on avait l'intention d'y rester, puis qu'on voulait une bière. Alors, finalement, ils nous ont servi une bière.
Police de Longueuil.
Oui, ben, bonsoir. Je vous appelle de la taverne Tremblay, 407 rue Grant. Là, je suis un peu mal pris.
On a commencé à boire notre bière, mais bon, ils ont appelé la police, puis la police est intervenue. Ils ont d'abord essayé de nous convaincre de sortir, puis quand on a dit que non, on sortirait pas, ben là, ils ont demandé des renforts. Hey, bon. Bon, on n'a pas résisté au point de se faire traîner par terre, mais il a quand même fallu qu'ils nous guident vers la porte et le panier à salade. Oui, on a chanté beaucoup, je me rappelle. Quand ils nous ont amenés, on chantait des chansons à boire. Ils nous ont amenés au poste, et puis là, au poste, on a tous eu des contraventions avec promesse de comparaître. Et en fait, la comparution n'a jamais eu lieu parce que quelques semaines plus tard, ils ont abandonné les poursuites. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un processus législatif qui a pris une quinzaine d'années pour remettre en question le fait que les tavernes soient des lieux ségrégés pour et ouverts aux hommes seulement. Je veux dire, c'est sûr que tu n'as jamais de preuve de ça. Hein? Quand ils présentent un nouveau projet de loi, ils ne disent pas « ben là, c'est parce que ces personnes-là ont contrevenu à la loi que nous changeons la loi ». Mais c'est assez clair. On a fait ça en juin 1971. Et puis, c'est en juillet 71 qu'il y a eu la création d'une catégorie d'établissements qu'on appelle maintenant les brasseries, où il était permis à des femmes de rentrer. Et puis, ça s'est arrivé un mois après, donc ça a dû quand même attirer l'attention sur le fait que la législation était un petit peu passée date.
Prends un verre de bière, maminette. Prends un verre de bière, prends ta bière, tu m'en donnes pas. Tu fais des belles façons, tu chantes des belles chansons, donne-moi en bon.
Bienvenue aux dames, avec Martine Éloi. Un documentaire de Jenny Cartwright et David Cherniak. Conception sonore, Thierry Gauthier. Musique, rechercher et prendre un verre de bière, mon minou, avec l'aimable autorisation de Jeannot Bergeron et de la famille Soucy. Mille merci à ceux et celles qui ont prêté leur voix aux reconstitutions, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui ont rendu ce projet possible.
Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter Hey Boy par Random Recipe, tiré de l'album Distraction paru en 2018. Un doigt d'honneur musical au patriarcat qui nous a été suggéré par Jenny. Merci à elle.
I've been hearing about chicks sucking dicks and shit since I was 6 years old. On TV, magazines, and movies, all generating bricks of gold. Kindergarten age, too young to gauge how much was stage of all the sex they showed. I think it's sage to turn a page on the golden age of the way our bodies sold. Bitch, gotta show tits, and if you really wanna love her, better blow dicks. I'm not an ornament, I'm a monument, like the women on a freaking $20 bill. So honor it, and it really kills me that you think I'd ever wanna be a princess, not even a queen. And I guess I've ever since then hated Halloween. Boy, you ready for a glimpse of society I dream of?
Hey, boy, better wipe that grin off your face if you wanna make sure that I keep a place safe for you in this dream world. While a pendulum swings and reverses things, making this grand world not a man's world anymore.
Liar, liar, pants on fire. You know you ain't looking good, shit, you might as well get fired. We kinda tired, feeling uninspired. Penny wishing roles be flipping, we'd be admired. So move aside, time to take a hike. Put an end to our world forever run by guys. Surrender to your snipe, see it through her eyes. Things will not get worse if you just let us ladies rise. After all, we do give you life. It's been 10 million days and nights, it's time to share these rights. And on each other we'll rely, and we'll combine the coolest shit you've ever seen in order to survive.
You don't like the smell of bras burning. We don't like you selling short our earnings. You don't like our body hair growing. But we don't like your creepy ass groping. You can hold the door as we march through, or you can be the doormat, we'll march over you. Don't try to lock the door and lock us in though, cause we can always flow through the window.
Hey, boy, better work that grin off your face if you wanna make a sure.
You don't believe I'm really gonna
C'était Récréation sonore et c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission consacrée à Jenny Cartwright sur le site de Radio Campus Paris 93.9 et sur toutes les plateformes de podcast. Dimanche prochain, vous retrouverez Muriel Caes. D'ici là, portez-vous bien et pensez à vous abonner à notre flux de podcast.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ну вот, красная лиса.